Nous sommes à Marseille, sur le cours Julien, à la Baleine qui divague. Un lieu dans lequel on rentre, entouré de livres, nous sommes assis à la table de Gepetto. La baleine, Gepetto, des mots évocateurs qui nous portent dans le domaine du rêve et de l'imaginaire. Je suis avec Laurent Descartes, directeur du lieu. Où sommes-nous, Laurent ?
On est dans le ventre de la baleine, et dans le ventre de la baleine, quand on y rentre, eh bien, on n'en ressort jamais pareil, puisque la baleine, c'est un endroit où ceux qui y sont rentrés, c'est Pinocchio, c'est dans les histoires amérindiennes, Corbeau, c'est Jonas, c'est toujours un lieu dont on sort transformé, et ici, on sort transformé peut-être par ce qu'on mange, parce que c'est quand même la table de Gepetto, et puis aussi parce qu'on peut lire tous les livres de contes qui sont là à disposition, qui attendent les gens qui passent et qui sont curieux, et également la salle de spectacle, qui est une salle de spectacle particulière, puisqu'elle est dédiée uniquement à l'art du conte. Donc ici, on vient écouter des contes, des mythes, des légendes, qui viennent de tous les coins du monde, tous les conteurs du monde francophone pour l'instant s'y retrouvent.
Je crois que vous êtes la seule scène de théâtre de contes en France, est-ce que c'est vrai ?
C'est encore vrai, oui. On est le seul lieu théâtral qui base toute sa saison sur l'art du conte. Oui, tout à fait. Il y a d'autres lieux qui travaillent sur le conte depuis plus longtemps que nous, mais le fait de présenter une saison entière de programmation de conte, c'est unique.
Laurent, tu as un parcours un peu particulier, passionné de mythologie, d'ornithologie, une formation d'éco-interprète, donc c'est des mots qui font un peu rêver déjà par eux-mêmes. Et raconte-nous un peu ce parcours, comment devient-on conteur ?
Alors, comment on devient conteur ? Tous les conteurs ont chacun une histoire très différente. Il y a des conteurs qui étaient comédiens, d'autres qui étaient postiers, des orthophonistes, des psychologues, puis moi j'étais ornithologue effectivement. En fait, depuis que je suis tout petit, tout minot, j'avais toujours le nez dans les livres de contes, j'ai toujours bouquiné les contes amérindiens, la mythologie grecque, tout ça, ça me passionnait, j'étais toujours là-dedans. Et j'ai jamais arrêté, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Mais quand j'étais plus jeune, moi, ce que je voulais faire, c'était voir tous les animaux du monde. Donc, ça me passionnait, j'ai fait, ne pouvant pas intégrer une école qui m'intéressait, un BTS de protection de la nature, je suis allé en fac. J'étais très déçu par la fac, mais ça m'a permis de prendre mon temps. Ça sert à ça, la fac, finalement, on prend son temps. Et à la sortie de la fac, je devais faire le service militaire et je ne voulais pas être militaire du tout. Donc j'ai réussi à trouver un laboratoire extraordinaire qui travaillait sur l'écologie des mammifères et des oiseaux dans les terres antarctiques. Et je suis parti comme ornithologue dans les terres australes et antarctiques françaises. Et pendant 16 mois, j'étais sur un petit caillou en plein milieu de l'océan Indien, dans les 40e parallèle. Et j'ai étudié les albatros, je me baignais avec les otaries, enfin je fais un truc magnifique. Ce qui permet derrière d'avoir de la matière pour raconter. Mais le conte était toujours là, et puis quand je suis rentré de cette expérience-là, j'ai travaillé un petit peu comme ornithologue au parc de Corse par exemple, et je me suis dirigé vers ce qu'on appelait l'éco-interprétation. C'est un peu bizarre, c'est en fait l'interface entre toutes sortes de publics et toutes les questions environnementales. Ça peut être expliquer comment fonctionne une rivière, un écosystème, ça peut être comment découvrir et lire un paysage, comment observer les fourmis, etc. Et j'ai travaillé là-dedans, j'étais responsable pédagogique dans une maison de la nature en Franche-Comté. Et puis à un moment donné où j'ai eu envie d'arrêter. C'est un peu long peut-être, non, mais bon.
Non, ça me faisait rire, la Franche-Comté, finalement, on reste quand même dans l'univers du conte.
Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, oui. Et c'est des paysages magnifiques en plus. Et en fait, pendant tout ce temps-là, je continuais à faire des choses un peu variées. Quand j'étais à l'école du Cirque Plume, donc je faisais du jonglage, j'ai fait des spectacles de rue, j'ai fait de la danse, du chant, toujours comme ça, en touchant un peu à tout, au clown. Et à un moment donné, je suis rentré sur Marseille, puisque je suis d'origine de Marseille quand même, et là j'ai été au chômage, c'était très bien. J'ai pu prendre mon temps pour écrire un conte, et en même temps intégrer une troupe de comédia dell'arte. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, au fait, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un pour raconter des histoires, t'aimes bien les histoires, toi, est-ce que ça te dit pour un anniversaire ? Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas. Et donc j'ai raconté, et puis je me suis dit, ça c'est bien. ça me plaît bien. Et puis finalement, il y a eu un jour où, hésitant entre tout ça, Elisabeth, donc mon épouse, m'a dit « Écoute, ce que tu sais faire, c'est raconter des histoires, arrête d'essayer de faire autre chose, raconte des histoires. » Et voilà comment on devient conteur.
Raconter des histoires. J'ai lu dans mes nombreuses recherches autour du conte, le conte est un mensonge qui raconte la vérité. Mmh. Alors, au travers de tout ton parcours, parfois ça a dû être difficile aussi de se rendre ton imaginaire et la réalité. Et qu'est-ce que cette phrase t'évoque ?
Un mensonge qui dit la vérité. Oui, c'est... moi j'aime beaucoup cette phrase-là parce qu'elle. Déjà, elle trace la frontière avec le politique, parce que le conteur, quand il raconte ses histoires, il croit à son histoire, mais il sait très bien qu'il ne fait que raconter une histoire. C'est à ça que servent les motifs d'entrée et de sortie des contes. Quand on commence à dire « il était une fois », on dit à tout le monde « je sais que ce que je vous raconte, ce n'est pas vrai, vous savez que ce n'est pas vrai, mais on sait très bien que dedans, il y a des choses importantes à entendre. » Donc on est ensemble dans un espace où on est « c'est pas vrai, mais c'est pour plus que de vrai même ». Quand on écoute un politique, il dit à peu près le contraire, c'est-à-dire qu'il dit « ce que je vous dis, c'est vrai, et il veut qu'on y croit, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai ». Donc cette phrase me plaît beaucoup, le mensonge qui dit la vérité, au moins on n'est pas dupe, mais en même temps on grandit avec ça. C'est une phrase qui a vraiment une grande importance, me semble-t-il.
Parce que c'est dans la notion de conte, il y a une notion de transmission, me semble-t-il, mm-hmm. parce qu'on raconte malgré tout l'histoire, ou en tout cas une histoire, qu'on interprète ou pas, mais qui est souvent quand même basée sur des histoires qui ont vraiment eu lieu, qui se sont vraiment passées. On retrouve dans la notion de conte, les mythes, les contes, les légendes, les récits de vie, tout ça c'est de la tradition orale, souvent. Et comment aujourd'hui, dans notre société contemporaine et occidentale, on croit davantage aux contes ? Est-ce qu'on prend plus de temps pour écouter, se raconter des histoires ? Est-ce qu'il y a des frontières entre l'écrit et l'oralité ? Comment ça se vit aujourd'hui ?
C'est très mouvant, effectivement. C'est vrai que quand on parle de contes aujourd'hui, on englobe beaucoup de choses différentes. On englobe les mythes, les légendes, les contes proprement dit, les épopées, les récits de vie, ce sont des choses très très variées. Les mythes, par exemple, au départ, ce sont des vérités pour les sociétés traditionnelles. Le mythe, c'est ce qui va vous dire pourquoi le monde existe, pourquoi la mort existe, comment l'homme est venu au monde, pourquoi il y a l'homme et la femme, etc., qui va situer l'homme dans le cosmos. Et donc, tout le monde... partageant le même mythe, tout le monde peut vivre ensemble parce qu'on sait où est sa place. Ça nous manque cruellement dans la société d'aujourd'hui. Le partage d'une même base, ce sont les fondations d'une civilisation. Et si ces bases-là, on les enlève, la civilisation, elle se casse la gueule. C'est un petit peu ce qui se passe là. On y met aussi... Donc là, c'est de la vérité. Ça peut sembler étrange quand on dit que c'est un mythe, aujourd'hui on dit que c'est un mensonge, alors que non. Un mythe, au départ, c'est une vérité pour la culture en question. Derrière, il y a les contes qui sont des mensonges, comme on l'a vu, mais qui donnent des points d'appui pour l'individu. C'est-à-dire que le conte, il va vous dire que c'est important d'être persévérant quand on cherche quelque chose. C'est important d'avoir les yeux ouverts et de rendre service et d'écouter les autres. Si on loupe la bonne femme qui est dans le fossé, eh ben, elle ne se transformera pas en fée et puis on n'aura rien gagné à la fin. N'est-ce pas ? Donc les contes, ils vous disent comment se comporter dans la vie. Il y a également les légendes qui vont prendre un lieu ou un personnage historique et le garder dans la mémoire collective. Les épopées qui vont faire la même chose, mais sur des choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus longues, sur des civilisations entières. Donc tout ça, c'est du conte. Et tout ça, effectivement, au départ, c'est uniquement à l'oral. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés traditionnelles, tout ce genre de production de l'esprit humain, toute cette oralité, ça représente ce qui pour nous est le cursus scolaire depuis la maternelle jusqu'à l'université. Il y a tout dans les contes. Il y a qui on est, pourquoi on est là, comment on se comporte, etc. etc. Ce qu'on doit apprendre, toute la pharmacopée des cultures indigènes, c'est dans les contes. On trouve pourquoi les plantes existent, quel est leur rapport avec l'homme, etc. Et tout ça, on l'apprend à des moments bien particuliers. Il y a des rites de passage dans lesquels les garçons de leur côté, les filles de leur côté, ont certaines histoires qui leur sont dites à tel âge, parce que c'est là qu'ils en ont besoin. Tout ça, c'est ce que nous, aujourd'hui, on appelle conte. Et nous, on a perdu ça parce que la tradition orale a été coupée. Et d'une part, la tradition orale a été coupée, d'autre part, nos racines avec le milieu naturel ont été coupées aussi. Du coup, on se retrouve avec des objets qui n'ont plus toute la signification vitale qu'ils ont pour les sociétés traditionnelles, mais dont l'importance demeure telle que quand on y est confronté, on sent quelque chose de très important dedans et on n'arrive pas trop à voir quoi. Et on peut, grâce au collectage, grâce au livre, retrouver un petit peu ces histoires-là et les remettre en circulation. C'est ce que moi je fais, puisque je n'ai pas de transmission orale directe. C'est ce que moi je fais. Et effectivement, on est sur quelque chose qui est un petit peu, j'allais dire, bancal, puisque les racines ne sont plus là, mais l'intérêt revient, l'intérêt renaît. C'est quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui, je pense, le temps du compte. C'est un essai peut-être de retrouver un paradis perdu, je ne sais pas, ou en tout cas une compréhension qui nous dit, tiens, il nous manque quelque chose, allons le chercher, ça peut être ça aussi.
On a peut-être besoin d'un peu plus de part de rêve dans une société un peu trop pragmatique et réaliste, terre à terre.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça également, hein, c'est vrai qu'il y a ça également. Mais en même temps, il faut faire attention de ne pas cantonner le conte à l'imaginaire et au rêve. Comme je disais, le conte, ça ramène quand même les gens à des actions concrètes. Le conte, c'est très simple. Hein. Si je reprends l'exemple de la vieille femme, il y a trois frères qui partent pour chercher l'oiseau de feu dont leur père rêve, leur père qui est roi. Si je ramène l'oiseau de feu, j'ai le royaume. D'accord, on part. Les deux aînés voient la vieille femme dans le fossé, ils la laissent croupir, et bien ils se retrouvent dans une auberge, ils n'en sortent pas, parce que la vieille femme n'a pas pu leur donner le conseil qu'il faut. Le troisième arrive, il aide la vieille femme, elle lui donne le bon conseil, et l'oiseau de feu, c'est lui qui le ramène. Donc les contes, ils sont très clairs. Il y a un endroit où c'est du concret, c'est du fais attention, ouvre les yeux et n'oublie pas d'aider celui qui te demande de l'aide. Voilà, donc là on est tranquille, tout va bien. C'est pas du rêve, c'est pas l'imaginaire, c'est du ça va te servir mon gars. Donc entends-le bien et surtout mets-le en pratique.
Il y a souvent une grande part de moralité quand même dans le conte. Enfin, d'aide à la compréhension et quelque part d'une morale, si c'est pas de la moralité.
Voilà, c'est pas de la moralité, effectivement, faut faire attention aux mots, c'est pas de la... On va dire plutôt, ce sont des expériences de vie, ce sont des partages d'expériences de vie, ce sont des choses dont on a besoin de se souvenir de l'importance. Un personnage de conte qui n'a pas la persévérance dans son but, là je reprends l'oiseau de feu, il sait que son but c'est ça, eh bien, il va faire ce qu'il faut pour aller là-bas, parce que ça, il ne va pas l'oublier. Et dans la vie, si effectivement on passe d'un but à l'autre sans arrêt, ben c'est clair qu'on va faire beaucoup de traces, mais qu'elles n'iront pas très loin.
En Afrique, j'ai entendu une phrase qui dit « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Ça rejoint un petit peu ce que tu nous racontes.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça met aussi l'accent sur la transmission qu'il y a dans le conte, sur le fait que... On dit souvent que l'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte. Certes, mais ça n'empêche pas d'essayer de passer la lumière quand même. Et c'est ce que les contes sont là pour ça. Pour dire, voilà, cette histoire-là, entends-la bien, vois ce qu'elle peut te raconter, et peut-être que ça pourra te servir à un moment donné. Moi, je sais qu'à force de raconter des histoires, régulièrement, je me dis, bon, cette histoire-là, ça fait 7 ans que je la raconte, et aujourd'hui, je vois quelque chose dedans que je n'avais pas vu. Et pourtant, ça me servirait bien de l'avoir vu, ça. Voilà.
Et est-ce que toi, tu écris des histoires qui n'existent pas ?
J'écris des histoires qui n'existent pas. J'en ai pas écrit beaucoup, mais oui, j'en ai écrit quelques-unes, oui, tout à fait. Mais il y en a une seule que je raconte, qui est assez courte, qui est un type bien particulier, c'est une randonnée. Une randonnée, c'est quelque chose où on répète toujours le même départ, on l'allonge un petit peu, on revient au début, on rallonge encore, etc.
Il était une fois, dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère, qui baignait dans le romantisme et les traditions.
Bientôt, les auditeurs, les curieux pourront venir t'entendre, t'écouter, te voir à la Baleine qui divague. Quel est ton prochain spectacle, on peut dire spectacle ?
Ah oui, tout à fait. Le prochain, c'est un spectacle que je vais donner à trois reprises pendant la deuxième semaine des vacances. Et ça, c'est Cendrillon. C'est Cendrillon. J'ai décidé de donner chaque fois un conte merveilleux traditionnel de façon à retrouver des bases. On en a besoin, ces bases-là. Donc j'ai raconté l'oiseau de feu, les trois cheveux d'or du diable, des choses qu'on peut trouver chez Grimm ou dans des recueils comme ça. Et là, je raconte Cendrillon, donc dans une vieille version qui prend beaucoup en compte la version des frères Grimm, mais aussi un petit peu de version italienne. Donc j'ai fait un petit peu ma sauce, ce que font tous les conteurs, mais en me basant sur des vieilles versions. Et je raconte aussi une version de Cendrillon africaine pour mêler un petit peu les plaisirs.
Et peux-tu nous dire quelles seront les dates auxquelles nous pourrons venir partager ces moments d'écoute ?
Alors oui, c'est tout début mars, ça sera le 3, le 4 et le 5 mars, et c'est à 15h.
Ainsi s'achève l'histoire merveilleuse de la jeune fille dont la peau était plus blanche que la neige. Mais n'oubliez pas, lorsque vous rencontrerez des nains en vous promenant dans la forêt, n'ayez pas peur. Si vous savez leur parler, ils deviendront vos amis.